Les autorités locales se plaignent des déchets laissés par les touristes. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
RFI, il est midi 10 à Paris dans un instant.
Merci beaucoup à RFI pour ce journal midi 10 également à Bordeaux. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, une émission consacrée à deux événements culturels, festifs et politiques. Le festival Chahut qui aura lieu en juin à Bordeaux et puis la fête de l'UMA en Gironde qui revient après 5 ans d'absence et ce sera dès ce dimanche au parc de Mussonville à Bègles. En fin d'émission, les clés de l'écho nous seront données par Félix Garnier. On commence avec quelques autres informations et d'abord près de 160 000 personnes meurent du cancer chaque année en France. Un rapport de l'Organisation européenne du cancer était présenté hier. La France y apparaît première en Europe pour le nombre de cas de cancer. Le rapport pointe au moins trois raisons à cela. Des carences dans le dépistage des cancers du sein et du cancer colorectal. Des déserts médicaux plus importants en France qu'ailleurs, qui sont d'ailleurs en partie la cause du manque de dépistage. Il y a par exemple plus de deux fois moins d'oncologues en France que pour la moyenne européenne. Et puis la consommation importante de tabac et d'alcool, qui est là aussi supérieure à la moyenne européenne et encore trop souvent banalisée dans notre pays. La totalité du rapport et des retours sont à lire dans la presse. Une grève des agents de sécurité à la centrale du Blayais, c'était hier. Ils sont salariés de l'entreprise Ceris Security, prestataire d'EDF, et ils demandent l'augmentation de leur salaire, qui n'ont pas évolué autant que l'inflation ces dernières années, et se retrouvent bien souvent au niveau du SMIC à 1400 euros net. Le délégué syndical CGT évoque un ras-le-bol général, alors que des grèves ont déjà eu lieu sur d'autres sites en France qui sont dans des situations similaires. Les agents se disent prêts à entrer dans une grève illimitée. Et puis une grève se prépare également du côté des douanes, précisément au centre de service des ressources humaines des douanes de Nouvelle-Aquitaine. C'est une large intersyndicale qui est à l'origine de cette mobilisation qui aura lieu ce jeudi 16 mai. Les agents des douanes affirment s'être adaptés avec professionnalisme aux contraintes qui leur sont imposées depuis 10 ans. Des transferts de tâches, des déménagements, une évolution permanente des outils et des réglementations, l'accélération du calendrier et des réformes. Mais face à cette surcharge de travail, ils demandent une prime qui reconnaisse leur engagement et leur expertise. Leur ministre de tutelle, c'est Thomas Cazenave, préfère lui sillonner la France en goguette, écrivent les syndicats, plutôt que de s'intéresser au ras-le-bol des agents. Et puis une pétition a été lancée contre le projet d'usine de conversion de nickel et de cobalt à Parampuire. Electromobility Materials Europe, c'est le nom de ce projet qui vise à installer une usine de raffinage de métaux afin de produire des batteries de voitures électriques. Cette usine, elle s'installerait au port de Gratkina, sur la rive gauche de la Garonne, au nord de Bordeaux, au niveau de la commune de Parampuire. Une consultation du public est d'ailleurs toujours en cours par le port de Bordeaux jusqu'au 20 mai, mais une pétition a d'ores et déjà été lancée par le collectif Alerte Céveso Bordeaux Métropole, qui s'alarme de la potentielle implantation de cette usine qui serait donc classée Céveso seuil haut et qui serait une aberration en pleine zone inondable. La pétition non à l'implantation au cœur de Bordeaux Métropole d'une raffinerie Céveso à haut risque, elle est à signer sur le site change.org. Et puis on termine cette page d'info par l'agenda culturel de Bordeaux Nord qui nous est présenté comme chaque mardi par Jennifer. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Ondes. Le collectif Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Commençons avec la salle des fêtes du Grand Parc qui reçoit l'artiste musicien Gabriel Durlia pour un récital de piano ce mardi 14 mai à 20h. Dans le cadre de la fête du jeu qui se déroulera le 25 mai prochain, le collectif Fête du jeu organise des animations en amont de l'événement. Mardi 14 mai de 20h à 23h, soirée jeu de rôle Kitani au centre d'animation du Grand Parc. Et vendredi 17 mai de 19h à 22h30, soirée jeu au centre d'animation de Bacalan et du Grand Parc. Le festival L'Esprit du Piano accueille l'artiste Diana Cooper pour un récital de piano à la salle du Point du Jour Pierre Tachou, mercredi 15 mai à 19h. L'organisateur met à disposition des habitants de Bacalan des places à demi-tarif. Le Garage Moderne ouvre sa guinguette pour la saison du mercredi au vendredi de 16h à 23h. Le Centre Social du Grand Parc invite les artistes à partager un moment convivial autour d'une boisson chaude pour rencontrer d'autres artistes et partager, discuter. Rendez-vous ce jeudi 16 mai à partir de 16h30. L'association Les Petits Tréteaux propose aux habitants deux rendez-vous gratuits, un hebdomadaire et un autre mensuel au Centre Social du Grand Parc. Le premier rendez-vous est tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 pour des ateliers de théâtre, dont ce jeudi 16 mai. Le deuxième rendez-vous est ce samedi 18 mai à partir de 10h30 pour des ateliers de théâtre et de danse. Le tout au Centre Social du Grand Parc. Et pour finir, l'association Au Grand Parc SDF s'associe à la salle des fêtes du Grand Parc pour la projection mensuelle d'un film. Ce dimanche 19 mai à 15h, il s'agira du grand classique « Chantons sous la pluie » de Gene Kelly et Stanley Donen. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
Merci beaucoup Jennifer pour tous ces événements à venir. Midi 16 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le plat de résistance et on s'intéresse maintenant à la fête de l'humanité en Gironde et à Bordeaux qui fait son retour après 5 ans d'absence. Elle aura lieu cette fête au parc de Mussonville à Bègle dimanche 19 mai, c'est-à-dire ce dimanche. On en parle tout de suite avec Irène Delavallée. Bonjour Irène.
Bonjour.
Tu es membre de la direction départementale du Parti communiste de Gironde et responsable de l'organisation de cette fête de l'UMA de Gironde. Peut-être commencer par un petit rappel historique. Alors on connaît, nos auditeurs, auditrices connaissent sans doute avant tout la fête de l'UMA nationale qui a lieu chaque année, chaque rentrée même historiquement du côté de la Courneuve en Seine-Saint-Denis, qui a été déplacée dans l'Essonne cette année, l'année dernière, à cause des JO, des Jeux Olympiques. Rappelle-nous un petit peu comment sont nées ces fêtes de l'UMA locales, en tout cas celles en Gironde, et puis comment elle a évolué au cours du temps. Irène ?
Alors, merci en tout cas pour l'invitation. Oui, c'est vrai, la fête de l'humanité Gironde, enfin la fête de l'UMA Gironde, est un peu une cousine de la fête de l'UMA qui a lieu dans l'Essonne. La volonté qu'on a, c'est de pouvoir, d'un point de vue historique, pouvoir promouvoir aussi un événement festif, culturel, associatif et politique, parce que pour nous, ça rime principalement et fortement avec la politique, pouvoir débattre, pouvoir partager et pouvoir faire vivre de manière plus large ces questions-là.
Donc je disais, c'est la dernière édition, c'était il y a 5 ans. Pendant longtemps, c'était du côté de Villeneuve-d'Ornon, si je ne me trompe pas, qu'il y avait cette fête de l'UMA Gironde.
C'est ça, oui. Alors, dans les années 70, elle avait lieu au parc Mussonville. Donc pour nous, c'est ça aussi qui est important, c'est le retour historique de la fête sur le parc. Ça s'est arrêté en 89 avec l'élection de Noël Mamère. Effectivement, après...
C'est Noël Mamère qui a stoppé... La fête de l'UMA au parc de Mussonville ?
Tout à fait, pour la petite histoire, effectivement. C'est Noël Mamère qui nous a refusé l'autorisation de la tenue de la fête dans le parc Mussonville, qui était notre lieu historique. Et puis, effectivement, on a déménagé sur un terrain à Villeneuve-d'Ornon. Et pour plusieurs raisons, et notamment raisons financières, nous n'avons plus ce terrain-là. Et donc, la dernière fête s'est tenue, effectivement, en 2019. Donc là, c'est la reprise de la machine.
Alors pourquoi justement cette reprise ? Qu'est-ce qui permet cette reprise ? Tu disais une raison financière qui font que vous n'avez plus ce terrain à Villeneuve. C'était ça une des raisons principales de l'arrêt de la fête ?
Non, pas du tout. Il y avait effectivement la question du terrain, mais ça, j'ai envie de dire, c'est une contrainte technique plus que la tenue ou pas de la fête. 2019, la dernière, parce que 2020, après, c'était Covid. Effectivement, pour raisons sanitaires, on ne pouvait pas tenir la fête. Et puis après, on va pas se mentir, on l'a tous connu, hein, après la période Covid, le temps de reprendre ses habitudes, ça prend du temps, une organisation d'un événement comme celui-ci prend du temps, demande beaucoup de paires de bras, et donc c'est pour ça qu'on a pris ce temps-là, et puis après on avait les présidentielles, les législatives aussi, qui nous ont pris beaucoup, on a dit 2024... Il faut que ça reprenne, donc on s'est donné les moyens de refaire cette fête de l'UMA sur un format plus restreint, sur une journée.
Alors on va reparler de, on va revenir sur le programme. Cette année, cette fête, elle a une coloration européenne en lien avec les élections qui auront lieu dans quelques semaines. L'objectif maintenant, c'est de pérenniser ce rendez-vous et de le reprogrammer dans les années à venir, Irène ?
Oui. L'idée et l'ambition qu'on a, c'est de la tenir tous les ans. C'est pas de faire une seule fête dans le cadre des élections, parce que pour nous, c'est décorrélé en fait des élections européennes. La fête de l'Imagironde, elle s'est toujours tenue dans cette période au mois de mai, et l'année prochaine, elle se tiendra à la même période. Non, il y a l'envie de relancer la fête de manière durable. Effectivement, la thématique européenne, mais pas que. Même surtout nationale, elle est forte dans cette édition. On a voulu la mettre sur le thème des 50 ans de la révolution des œillets du Portugal, et ça a aussi une caisse de résonance pour nous sur la situation politique nationale quand on voit la montée de l'extrême droite partout en Europe.
Tu disais, cette fête, c'est une combinaison de moments festifs, moments populaires, moments politiques. Pour ça, alors il y a plein de choses différentes dans cette journée de dimanche qui vont avoir lieu. Il y a un grand banquet pour commencer. Alors, vous attendez plus de 600 convives. A priori, les places sont toutes réservées, c'est ça ?
Alors oui, on a effectivement énormément de réservations. À ce jour, on approche les 600 réservations. Bien évidemment, c'est ouvert au public. Cette fête est ouverte au public. Il n'y a pas de billets d'entrée. Et le banquet est un banquet fraternel autour des camarades communistes, sympathisants. Et puis, toute personne qui veut venir, on trouvera toujours de quoi remplir les estomacs.
Et donc, ça, en tout cas, ça commence vers midi, c'est ça, midi 13h, ce moment-là, cette journée avec le banquet.
Alors, bon, ça va faire un peu écho sur ce que tu disais sur la consommation d'alcool juste avant, mais il y aura quand même l'apéro de bienvenue vers 11h, 11h30. Mais effectivement, le banquet commence à midi et se terminerait vers 14h, 14h30, par là.
Il y aura tout au long de la journée un espace avec des associations, une librairie, une tombola aussi qui est ouverte.
On a différents espaces. On a le village association qu'on veut aussi autour des luttes, avec la présence d'associations comme Palestine 33, l'UJFP, le Secours Populaire aussi, le Mouvement de la Paix. Donc avec une résonance de lutte même au niveau international et de solidarité. Donc pour nous, c'était important. La librairie de la Renaissance, Espace Marx. Et bien évidemment, le Parti communiste de Gironde. Oui, on aura un village autour de ces luttes-là, avec les Kurdes aussi. Voilà. C'est très large. Un espace du Secours Populaire avec aussi un regard sur les plus jeunes, avec un espace jeu géant pour les enfants. Tout au long de la journée, on anime l'initiative de la Tombola, avec un tirage au sort qui aura lieu aux alentours de 17-18h en fin d'après-midi. D'autres moments, que ça soit plus politique, et des moments plus festifs avec les concerts le soir. Moments plus politiques avec un échange autour de des 50 ans de la Révolution des œillets sur la question de... Que reste-t-il des valeurs de toutes ces révolutions qu'on puisse opérer, que ce soit au Portugal, mais même en Espagne, avec la fin de la dictature de Franco, de la paix, de la démocratie et de la liberté. Nous-mêmes en France, on voit bien cette peste brune qui monte, et donc comment prendre tous ces sujets.
Donc ça, ce sera vers 16h, 17h, c'est ça ? J'ai plus les horaires en tête, avec notamment la présence du consul du Portugal à Bordeaux.
Oui, à 17h, on a ce débat avec la présence du consul du Portugal à Bordeaux, Luis Capucha, ainsi que... Mario Gomes, ainsi qu'un représentant du Parti communiste portugais, donc Luis Capucha, et notre secrétaire fédéral de la Gironde, Sébastien Laborde.
Et puis avant ça, donc juste après le banquet, en début d'après-midi à 15h, il y aura un meeting, là cette fois plus axé sur les questions nationales et européennes, avec notamment Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, et Marilyn Faure, qui est la représentante locale qui sera sur la liste des européennes. C'est ça, peut-être tu peux nous dire un mot sur elle, et puis sur la manière dont cette campagne aussi des européennes, elle vous est chère, et elle est là aussi aujourd'hui et ces semaines-là dans vos activités au PCF.
Oui, alors à 15h, on a effectivement la prise de parole de Fabien Roussel qui sera là pour l'événement. Marilyn Faure, qui est notre candidate girondine sur la liste, effectivement, conduite par Léon Desfontaines, notre candidat aux européennes. Marilyn, qui pour nous, c'était important qu'elle soit sur cette liste des européennes parce que syndicaliste de l'énergie. Et dans la campagne des européennes, la question de l'énergie, elle est plus que centrale parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le démantèlement du service public de l'énergie est intimement lié aux directives de l'Union européenne avec cette volonté de casser en fait et de concurrencer tous les services publics et les besoins en fait vitaux pour notre société. Donc Marilyn en fait est dirigeante syndicale CGT de l'énergie et est notre porte-voix locale. Et puis au niveau national, on peut aussi parler sur la question de l'énergie, de la répression qui a été faite des syndicalistes qui se sont battus pour la question notamment des retraites. Là aussi, une conséquence des directives européennes.
Et notamment à Bordeaux avec émittants de la CGT Énergie de Gironde qui ont été aussi fortement réprimés, même si il me semble que la justice les a innocentés sur la plupart des affaires. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres, tant qu'on parle des européennes, d'autres rendez-vous annoncés sur cette campagne des européennes en Gironde, à Bordeaux, dans les semaines à venir, d'ici au 9 juin, au jour de l'élection?
Alors oui, il y en a pas mal. Déjà ce soir, à Senon, il y a une réunion publique qui a lieu sur la question sur la campagne des européennes. On en a un petit peu partout sur le département. Alors, j'ai pas toutes les dates en tête, mais on essaye d'être à la proximité au maximum des personnes. La semaine dernière, vendredi dernier, Léon Desfontaines était présent en Gironde et est allé se déplacer dans le sud Gironde, dans les marchés, a fait aussi du porte-à-porte dans le quartier de Bacalan. Donc voilà, notre volonté, et ça a toujours été le cas, c'est la campagne de terrain pour aller au plus proche de la population.
Et puis donc cette journée de fête de l'UMA, elle se terminera par deux concerts, La fiancée du pirate et El Comunero. Peut-être un petit mot sur l'ambiance que vous avez voulu créer et pourquoi ces groupes-là dans cette fête de l'UMA, Irène?
On a décidé de finir cette soirée de manière festive avec La fiancée du pirate, qui est aussi un groupe qui est porteur de valeurs que nous aussi on partage, et avec une teinte folk qui nous va bien sur la fête de l'UMA. C'est aussi un petit clin d'œil sur toutes les éditions qu'on a pu faire autour de ça. Et puis de finir aussi avec El Comunero, qui est quand même un groupe pour nous qui représente la thématique générale de notre fête, vu qu'ils reprennent quand même des chants révolutionnaires et de lutte, notamment en clin d'œil avec la révolution, la République espagnole. Donc tout ça fait écho sur ce qu'on veut porter aussi dans le cadre de ces européennes, une résistance face à la peste brune.
Justement, peut-être pour terminer, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ta bouche ce midi, là, de parler de cette menace de l'extrême droite. On sait aussi que le Parti communiste français avait cette force, et là sans doute encore en partie, d'un ancrage populaire important. Qu'est-ce qu'il en reste peut-être de cet ancrage-là aujourd'hui? Peut-être que d'ailleurs ces moments-là de fête sont aussi une sorte de test de voir où en est cet ancrage du Parti communiste français, Irène?
L'ancrage du Parti communiste français, elle est reconnue et elle est présente. Je remercie quand même la Clé des Ondes de nous inviter parce que quand on voit aujourd'hui la place des médias pour véhiculer aussi l'information, c'est important d'avoir une radio comme la Clé des Ondes. La peste brune aujourd'hui, elle jouit d'une place très forte dans les grands médias que nous n'avons pas. Et je pense que nous n'aurons jamais, sinon on serait au pouvoir. Mais par contre, la force du Parti communiste, c'est justement ces militants qui sont des travailleurs et des travailleuses. Et on estime que aujourd'hui, en fait, les seuls à répondre politiquement contre le programme de l'extrême droite, c'est nous, c'est le porte-voix des travailleurs et des travailleuses, c'est bien le Parti communiste français et non le Rassemblement national. Et c'est ce qu'on veut aussi donner dans cette fête de l'UMA, c'est à la fois la teinte européenne, internationale, mais aussi locale. Parce que la particularité aussi de la fête de l'UMA Gironde, c'est qu'elle est montée que par des militants. Et ça, je trouve que d'un point de vue de force politique, c'est très beau et très louable.
C'est quoi l'équipe d'organisation de cette fête? Combien vous êtes à charbonner et à préparer ça et depuis, j'imagine, pas mal de semaines maintenant?
Pas mal de semaines, mais surtout pas mal de mois. On est un noyau dur autour de 15-20 personnes, mais en réalité, c'est plus d'une centaine de camarades qui participent à la construction. Et je dirais même, là, d'un point de vue physique, mais d'un point de vue politique, c'est près de 800 à 900 militants qui sont sur le terrain.
Très bien, mais merci beaucoup Irène. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a dit l'essentiel donc pour cette fête de l'UMA de Gironde qui aura lieu, on le rappelle, ce dimanche au parc de Mussonville à Bègles. On peut venir donc dès 11h30 pour l'apéro et pour participer ensuite aux différentes activités de la journée. On trouve tout ça sur les réseaux sociaux, notamment Facebook de la fête de l'UMA de Gironde. Merci beaucoup Irène. Je rappelle que tu es membre de la direction des départementale du Parti communiste de Gironde et responsable de l'organisation de cette fête de l'UMA. Merci beaucoup à toi.
Bah, merci à vous et à dimanche.
Et on termine avec un morceau justement de La fiancée du pirate qui sera sur scène dimanche soir.
Le grand François est mort au jour levant. Le sang mettait l'arme à ses paupières. Nul n'a pleuré devant tant de misère. Mais pour les hommes forts va sangloter le vent. Dans un morceau de toile toute neuve, on l'a cousu en songeant à sa veuve. Pour qu'il descende au fond des eaux d'aplomb, on l'a chaussé de ferraille et de plomb. Pour qu'il descende au fond des eaux d'aplomb, on l'a chaussé de ferraille et de plomb. La mer roulait comme un ventre de joie, les albatros criaient après leur proie. Et le soleil du cap jaune est mal cuit, tremper le corps de ses rayons pourris. Mais sans faiblir sur la route incertaine, on s'en allait le nez dessus sa peine. Déjà la tâche est remise à nos poings. Adieu garçon, la route n'attend point. Virant de bord, nous reprenons la course pour remonter au ciel de la grande ours. Dans un morceau de toile toute neuve, on l'a cousu en songeant à sa veuve. Pour qu'il descende au fond des eaux d'aplomb, on l'a chaussé de ferraille et de plomb. Pour qu'il descende au fond des eaux d'aplomb, on l'a chaussé de ferraille et de plomb. Adieu garçon, ton vrai repos commence. Les jours pour toi seront toujours dimanche. Ton corps lassé vers la paix des grands fonds, descend tout droit sur ses ailes de plomb. Notre douleur dans l'effort, dans l'éveil, n'a pas le temps de devenir bien vieille. Matelot marche ou crève, il faut faire de l'ouest. Matelot marche ou crève, il faut faire de l'ouest. Thank you.
C'était le grand François par la fiancée du pirate dans le plat de résistance. Et à 12h35, on passe à un deuxième événement culturel qui aura lieu un petit peu plus tard. Ce sera dans un mois, du 7 au 15 juin, le festival Chahut qui revient. On en parle tout de suite avec son directeur de transition, Gabriel Lucas, qui était interrogé au micro de Léa Perron.
Je m'appelle Gabriel Lucas, je suis directeur de transition de Chahut. Je suis là pour quelques mois, le temps qu'une nouvelle direction soit recrutée. Alors moi j'ai une histoire assez ancienne avec Chahut, parce que j'ai été directeur il y a déjà pas mal d'années du Nombril du Monde à Pougny-Hérisson, qui est un lieu autour un pôle ressources autour des arts du récit et des arts de la parole. J'étais très en lien avec Chahut à cette époque-là. Je venais au festival tous les ans. J'étais très proche de la directrice de l'époque de Chahut. J'ai ensuite été directeur de théâtre dans l'agglo lyonnaise et dans la métropole de Montpellier. Mais ça m'a fait très plaisir quand j'ai été contacté par le conseil d'administration de Chahut, parce que il y avait ce lien historique. Et pour moi, Chahut représente vraiment un projet très 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 spécifique et assez unique en termes de lien au territoire, de projet qui se fabrique avec un territoire, avec des habitants, avec un quartier.
Alors justement, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de ce festival Chahut ? Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, Chahut, c'est à la fois un festival des arts de la parole, mais de toute forme de parole et des arts du récit, qui se déploie dans l'espace public. Chahut n'a pas de lieu, ce qui est quelque part une force, parce que ça oblige à aller à la rencontre de différents partenaires, à aller à la rencontre du quartier, à investir l'espace public. Et donc, c'est aussi un festival d'art dans l'espace public. Et comme je le disais, c'est un festival qui se construit tout au long de l'année, parce qu'il y a tout un volet qui s'appelle La Fabrique, qui est un volet qui invite des artistes à des résidences longues tout au long de l'année pour fabriquer des projets artistiques avec les habitants du quartier.
Le thème de cette année, c'est ce qui fait la norme ou ce qui ne la fait pas. Comment est-ce qu'elle sera questionnée, cette thématique, tout au long du festival ?
Alors, elle est questionnée sur différents plans. En fait, on va s'intéresser à la question de la norme psychique, avec pas mal de propositions de récits intimes, de personnes qui ont été à des endroits de bascule et qui ont flirté avec la folie. Et tout un projet de territoire qui va s'intéresser justement à cette question de la folie, et on va s'intéresser aussi à la question de la norme sociétale des marges. En fait, on a monté tout un projet avec un auteur qui s'appelle Lancelot Hamelin, qui pendant toute l'année est allé à la rencontre des gens de la rue et de structures qui travaillent avec des gens qui habitent dans la rue, et on va aller rencontrer ces marges et les gens qui travaillent avec eux, et s'interroger avec notamment différentes causeries avec une sociologue, avec une philosophe, autour de ces questions de la marge, en fait, de la marge et de normes. Qu'est-ce que c'est être dans la norme ou hors norme ? Comment se fabrique la norme ?
Donc cette année, c'est la 33e édition de Chahut. Vous l'avez dit, vous êtes un directeur par intérim là cette année. Donc 33e édition, qu'est-ce que c'est les valeurs de Chahut ? Comment est-ce que ça a évolué, ou justement qu'est-ce qu'on a gardé ? Et qu'est-ce qui change aussi peut-être cette année avec cette nouvelle direction ?
Alors pour moi, les valeurs de Chahut, il y a vraiment cette question de fabriquer ensemble et de faire euh, de, de, de créer avec les habitants du territoire et avec le quartier. Mais il y a aussi la question d'interroger ce qui fait société. Et donc Chahut forcément évolue aussi avec les questions sociétales. Aujourd'hui, Chahut s'intéresse à la question des coloniales, à la question, aux questions de genre. Pour moi, Chahut est vraiment un festival qui est en prise avec les questions sociétales.
Donc là, c'est votre première édition en tant que directeur. Vous succédez à Paola Gilles et vous êtes directeur par intérim. Comment est-ce que ça s'organise du coup un festival quand on est là que quelques mois?
Alors, il y a un côté vraiment passionnant dans le fait d'arriver et de rencontrer une équipe et de se dire collectivement on va faire un bout de chemin ensemble. C'est vraiment un pari. Et en même temps, j'ai la chance que ici il y a une équipe qui est vraiment qui est là depuis longtemps. Il y a des piliers avec des gens hyper professionnels, très très investis. Et quelque part, disons que moi je suis arrivé avec l'idée de donner un nouveau souffle et d'embarquer tout le monde sur un projet artistique, mais avec des gens qui étaient déjà complètement à fond dans ce festival, ce qui facilite beaucoup les choses en fait.
Concernant le financement aussi un petit peu du festival Chahut, l'année dernière il y avait des problématiques de financement. Qu'est-ce qu'il en est cette année? Est-ce que c'est un festival qui se porte bien?
C'est un festival qui est très soutenu par les partenaires. Enfin, disons, on sent que c'est un festival qui est aimé, en tout cas. On sent que les partenaires sont très présents. Mais après, on est dans une époque où c'est compliqué, je pense, financièrement pour tout le monde, où c'est compliqué pour les collectivités d'être dans du développement et un apport financier qui est difficilement en augmentation en ce moment. Donc ça nous oblige, nous, à toujours aller chercher ailleurs, c'est-à-dire à répondre à des appels à projets. Ça oblige quelque part à se réinventer perpétuellement. Et en même temps, ça génère forcément beaucoup de temps et d'investissement de l'équipe.
Le festival Chahut, est-ce que justement il faut le développer, l'étendre, ou alors c'est bien que ça reste un festival à taille humaine?
Moi, je pense que les choses se posent pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est bien que ça reste un festival à taille humaine. Et je pense que, quelque part, ce qui est important de développer et d'étendre, c'est cette question du travail à l'année. Et pour moi, c'est paradoxalement peut-être la partie la moins visible de l'iceberg. Et qui fait pourtant toute la richesse de ce projet. C'est parce que ce projet n'est pas hors sol, parce qu'il est construit à l'année, parce qu'il est très ancré, qu'il a cette force-là, cette richesse qui l'embarque autant de monde et qui peut passer justement d'une dimension très festive à quelque chose de beaucoup plus intimiste. Parce qu'il y a du lien qui se crée vraiment toute l'année. Et ça, ça prend du temps. C'est de l'humain, c'est beaucoup d'humain, et ça c'est très important de le maintenir et même de le développer, parce que je pense que quelque part pour moi Chahut a toujours été un peu à l'avant-garde sur ces questions-là, et c'est important de rester à l'avant-garde, surtout dans l'époque dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui, je pense.
Donc parmi les projets dont vous parlez à l'année, il y a notamment des projets avec des enfants dans des écoles primaires, des collèges. Quels sont un petit peu les différents projets à l'année avec Chahut?
Il y a il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'ateliers d'éducation artistique et culturelle avec le collège Ellul, avec enfin avec différents collèges, différentes écoles, mais notamment il y a un gros projet de marrainage de l'école des menus, qui est l'école juste à côté des bureaux de Chahut, où là il y a un travail qui se fait sur toute l'année avec différents artistes, et on va essayer à chaque fois de faire en sorte que ces artistes comme Tello, Troncy ou Rémi Luchaire à la fois de mener un travail à l'année avec les enfants et des créations, et en même temps de les intégrer dans le festival. L'idée, c'est que les choses ne soient pas séparées et que ces projets qui sont construits à l'année avec les enfants, ils aient un moment de visibilité dans le festival, mais que les artistes qui ont travaillé à l'année avec les enfants et aussi qu'on puisse accueillir leur création dans le festival. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que de tisser un lien qui soit cohérent et qui donne. On est vraiment dans cette idée à la fois d'accompagner des artistes. Oui, c'est ça. On accompagne des artistes, mais les artistes nous accompagnent aussi. On est vraiment dans un échange permanent, ce qui enrichit vraiment aussi le festival, en fait.
Et donc, pour revenir juste rapidement sur les informations pratiques de date, un petit peu du festival, de comment ça s'organise.
Alors, le festival est du 7 au 15 juin. On commence par une grosse soirée à la Bonne Auge, la fête de la Saint-Jean, avec une journée de fête, d'ateliers, pas mal, vraiment une journée pour les familles. Et le soir, ça va se finir en DJ set et en ciné-concert, avec un gros ciné-concert. Qui s'appelle Fantôme. Le premier week-end, les 8 et 9, c'est un week-end plutôt, disons, tranquille. Enfin, tranquille. Non, c'est un week-end qui va être tout en finesse et en délicatesse au Douve et surtout le quartier Saint-Michel avec l'auteur Lancelot Hamelin et un spectacle qui est quelque part une sorte de parcours dont vous êtes le héros, qui s'appelle Géographie de la survie, qui va se déployer sur le quartier, entre autres, mais avec plein de petites propositions dans le quartier. Et après, du 12 au 15, là, on rentre, disons, dans le dur du festival, là on rentre dans la fête, et Chahut se déploie sur tout le quartier, avec 4 jours de spectacles, de fêtes, de restitutions, de causeries.
Voilà, et on reviendra bien sûr plus en détail sur tout le programme de Chahut, puisque la Clé des Ondes est partenaire une nouvelle fois de ce festival. Merci beaucoup à Gabriel Lucal, directeur de transition du festival Chahut, qui était au micro de Léa Perron. Et puis en clôture du festival Chahut, le 15 juin, il y aura notamment ce bal Rita Macedo et le Parti Collectif, dont on écoute un morceau.
Pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexer nesse lego das formas até o sol raiar. Quero ver tu remexer nesse lego das formas até o sol raiar.
Quero ver tu remexer nesse lego das formas até o sol raiar. Quero ver tu remexer nesse lego das formas até o sol raiar.
Esse teu fungado quente vem no pé do meu pescoço. Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço. Coração de repente bota sangue alvoroço. Coração de repente bota sangue em alvoroço. Esse teu suor salgado é gostoso, tem sabor. Esse seu suor salgado, esse seu cheiro de flor. Tem um gosto temperado do tempero do amor. Tem um gosto temperado do tempero do amor. fungado, pente, é o pé no meu pescoço. Arrepia o corpo da gente, faz o pé e fica moço. Coração de repente bota sangue em alvoroço. Coração de repente bota sangue em alvoroço. Esse teu suor salgado é gostoso, tem sabor. Pode ter o cheiro suado com esse cheiro de flor. Tem gosto temperado do tempero do amor. Tem gosto temperado do tempero do amor.
Voilà, c'était Rita Macedo et le parti collectif dans le plat de résistance. Et à 12h52, on va tout de suite enchaîner avec les clés de l'écho.
Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, les clés de l'écho nous sont données par Félix Garnier. Salut Félix.
Salut Baptiste, salut la Clé des Ondes, bonjour à toutes et à tous, camarades, qui que vous soyez, soyez les bienvenus dans les Clés de l'écho. Bon, la météo aujourd'hui tombe plutôt mal, et tendrait plutôt à me donner tort quant à ce que je vais annoncer, mais est-ce que vous aviez remarqué que ces derniers mois, il a fait particulièrement chaud ? Enfin, je veux dire, gamin, j'avais l'habitude de me moquer des vieux lorsqu'ils m'expliquaient longuement que « il n'y a plus de saison, mon petit », et que « bientôt, avec toutes ces bêtises, on n'y reconnaîtra plus rien ». Je suis pas sûr que ce qu'ils avaient eu en tête à ce moment-là, ce soit le changement climatique. Moi, en revanche, c'est de ça que je suis venu parler aujourd'hui. Encore, oui, désolé, on ne se refait pas. Parlons réchauffement climatique, donc. Vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité, mais le mois d'avril a été le 11e mois d'affilée battant des records de température. D'après les données du Copernicus Climate Change Service, l'organisme de mesure climatique de la Commission européenne, avec une température moyenne de 15,03 degrés Celsius, la température moyenne du mois d'avril dépasse de 0,67 degrés Celsius celle de la période 1990-2020 et de 1,58 degrés Celsius celle de la période pré-industrielle de référence qui va de 1850 à 1900. Coup de chaud sur la planète, en somme. Ce nouveau record battu fait directement écho à cette enquête publiée par le Guardian la semaine dernière. 77% des climatologues interrogés s'attendent désormais à un réchauffement d'au moins 2,5 degrés Celsius de la planète. Qu'on soit clair, c'est une nouvelle terrifiante et à plus d'un égard. D'abord, on ne le répétera jamais assez, chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire implique potentiellement des dizaines de milliers de morts, de réfugiés, de victimes de nouveaux conflits. En effet, l'augmentation des températures mondiales accentue les événements climatiques extrêmes, les sécheresses, les vagues de chaleur, les inondations. En ce début du mois de mai, le sous-continent indien a déjà atteint et dépassé les 40 degrés Celsius à l'ombre dans certains endroits, par exemple. En France, pour se rapprocher un peu plus, les Pyrénées-Orientales, la région de Perpignan, on les salue, sont victimes d'une sécheresse terrible depuis maintenant 2 ans. Il y a plus 70% de moins qu'à la normale entre avril 2023 et mars 2024. Plus la planète se réchauffera, et pire ces phénomènes seront. Il semblerait, une fois pour toutes, que les élites économiques et politiques de ce monde, ou au moins une partie d'entre elles, aient fait le choix de l'adaptation pour un nombre restreint de personnes, plutôt que de lutter contre le mal à la racine et d'endiguer le réchauffement. Il est visiblement plus facile d'accepter la mort de centaines de millions de personnes que de renoncer à ces énergies fossiles qui rapportent tant. Aussi, il n'est pas étonnant que les stratégies survivalistes se répandent comme une traînée de poudre parmi les milliardaires. Eux ont bien compris que le risque que tout se casse la gueule est bien réel, et ils investissent pour s'assurer de rester en vie, eux et leurs proches, le plus longtemps possible. Après moi le déluge, comme dirait l'autre. L'autre aspect inquiétant dont j'aimerais parler est l'essor partout dans le monde occidental et ailleurs, on te voit, l'Inde de Narendra Modi, de mouvements politiques xénophobes, néofascistes, identitaires, nationalistes, en tout cas qui défendent la défense d'une partie de la communauté contre tout le reste de la population. Et bon, je sais que citer Gramsci, c'est un cliché sans nom, mais dans sa célèbre citation « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », cette citation elle est particulièrement adaptée à notre contexte aujourd'hui. Lorsqu'il sera définitivement trop tard pour inverser la tendance et éviter le pire du chaos climatique. Lorsqu'il sera définitivement trop tard pour prévoir à la fois une atténuation maximale et la meilleure adaptation pour toutes et tous à ce changement climatique. Qu'est-ce qui sera la réponse logique ou naturelle à adopter ? Est-ce que ce sera la défense des intérêts de sa communauté au détriment des autres ? Ou le partage inclusif avec tous les désespérés qui auront réussi à arriver jusqu'aux endroits qui seront encore habitables dans 70 ans ? Vous comme moi, je pense, nous connaissons la réponse. C'est pour ça qu'il est important de rappeler que, in fine, l'inaction climatique, c'est un projet génocidaire. Une manière de perpétuer et d'asseoir, dans notre cas, le suprémacisme blanc et, de manière générale, la loi du plus fort. Alors bon, cette chronique est légèrement décousue, mais promis, on va revenir à des questions plus économiques. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est en jeu dans l'opposition à l'action climatique ? Principalement, le maintien d'un mode de vie. Et ce mode de vie, spécifiquement, c'est le mode de vie occidental moderne, ce que certains ont appelé le mode de vie impérial. C'est un mode de vie qui fait passer sa satisfaction personnelle et son plaisir immédiat, ses profits, avant la vie d'autrui. Ces autres, les pauvres, les racisés, les exclus, les marginaux, dont la vie, la survie ou la mort vaut bien le luxe d'une Porsche Cayenne électrique, d'un iPad ou d'un aller-retour au travail en voiture. En avion, pour les plus riches d'entre nous, Bernard Arnault, on te salue. Parce que notre organisation du monde, elle est bâtie sur des logiques d'exploitation et d'accaparement. Elle est logique, elle est rationnelle, elle est profitable pour celles et ceux qui en profitent, nous, les premiers. La manière dont on vit en Occident, c'est directement des modes de vie qui sont issus de la période coloniale du 19e siècle. Toutefois, prenez garde, camarades. Ça marche que tant qu'il y a des esclaves. Des gens qui, comme la terre, sont mis au travail, au bénéfice de quelques-uns. Les prochains sur la liste, ça pourrait être vous. Loin de moi l'idée de réduire tous les problèmes sociaux, cependant, à leur simple dimension économique. Malgré ça, et malgré cette prudence, je tiens à rappeler que dans des sociétés dont l'imaginaire est autant accaparé par la logique économiste capitaliste que les nôtres, cette dimension, elle reste centrale. C'est à nous de mettre à bas notre propre système économique. Faute de quoi, nous serons ses prochaines victimes dévorées par la bête immonde. Et bien que l'inconnu fasse peur, c'est normal, c'est pour ça que la droite performe aux élections, bien que l'inconnu fasse peur, je préfère malgré tout cette peur et cette incertitude à la certitude de l'horreur qui nous attend si nous continuons dans cette direction.
Merci beaucoup Félix pour cette chronique qui me permet d'annoncer notre émission de demain où on parlera de la montée de l'extrême droite et de comment les organisations collectives de gauche peuvent s'organiser face à elle. Merci Félix, je rappelle donc que tu es doctorant en économie à l'Université de Bordeaux et on te dit à très bientôt pour une prochaine chronique. Et on arrive à la fin de ce plat de résistance, le temps de vous annoncer les programmes de la soirée sur notre antenne. À 19h, il y aura la voix off, une rencontre avec les fondatrices de l'asso Les Établis, spécialisées dans l'action en milieu festif. À 20h, Yapou, toutes les musiques. 21h, Radio Biche, qui recevra ce soir Lucas Majbour de Noche Records. Et puis à 23h, Cosette de Boudoir, l'émission féministe qui parle d'érotisme, consacrée ce soir aux mauvais garçons, les Bad Boys. N'hésitez pas à nous écrire, à écrire à la clé des